Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du lundi 1er avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Tchad, des candidats disqualifiés menacent de boycotter l'élection présidentielle.
Avec comme objectif déclencher une révolution populaire, sont parfaitement en alerte et en marche depuis 72 heures.
Les femmes togolaises en première ligne.
Nous voulons que les femmes laissent cette peur qui sont en elles et de se battre en politique.
Notre correspondante à Lomé décrit leur engagement dans la course électorale du 20 avril. Incendie en Afrique du Sud, 2 morts et près de 2000 sans-abri. En Somalie, changement vers un régime présidentiel et un système de suffrage universel direct. Conséquence, la région du Puntland révoque sa reconnaissance du gouvernement fédéral. En Israël, des milliers de manifestants de nouveau dans la rue pour demander le départ du Premier ministre Netanyahou. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye prête serment demain mardi, devenant à 44 ans le 5e et plus jeune président du Sénégal depuis l'indépendance en 1960. Il a énoncé la réconciliation nationale, la baisse du coût de la vie et la lutte contre la corruption, ses chantiers prioritaires, lui qui n'a jamais exercé le moindre mandat d'élu auparavant. Se disant panafricaniste de gauche, Diomaye Faye a promis de rétablir une souveraineté bradée selon lui à l'étranger et a exprimé son souhait de remettre sur la table les contrats pétroliers et gaziers ainsi que les accords de pêche. Il envisage de quitter le franc CFA et d'investir dans les secteurs agricoles et industriels pour tenter de faire baisser le chômage qui s'élève officiellement à environ 20%. Il veut rééquilibrer les partenariats internationaux dans un sens gagnant-gagnant et travailler au retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la CEDEAO. Le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité samedi l'instauration du suffrage universel direct et le passage à un régime présidentiel. Le principe du suffrage universel direct avait disparu après la prise de pouvoir par Siad Barré en 1969. Gaby Dorsine.
Les législateurs des deux chambres ont approuvé à l'unanimité les chapitres amendés de la Constitution, a déclaré le président de la Chambre basse du Parlement, Cheikh Adan Mohamed Nour. Après la chute de Siad Barré en 1991, le système politique somalien s'est articulé autour d'une myriade de clans. Les élections se déroulaient jusqu'à présent selon un processus indirect complexe. Cette réforme constitutionnelle a été critiquée par l'ex-président Mohamed Abdullahi Farmajo, estimant qu'elle ne représente pas la situation politique actuelle du pays et les piliers au cœur de la réconciliation et du partage du pouvoir. À la prochaine élection présidentielle, prévue en mai 2026, le poste de Premier ministre doit être remplacé par un vice-président élu avec le chef de l'État sur un seul bulletin. Les élections aux conseils locaux serviront de base pour les élections au niveau national qui se tiendront à la proportionnelle avec liste fermée et seront disputées par seulement 2 partis. La région semi-autonome du Puntland a annoncé dimanche ne plus reconnaître les institutions de l'État fédéral somalien, marquant son opposition à l'adoption au Parlement du passage à un régime présidentiel. Cette région riche en pétrole et qui abrite le port stratégique de Bosaso a déclaré son autonomie en 1998.
En Afrique du Sud, 2 personnes sont mortes et près de 2000 se sont retrouvées sans abri lors de 3 incendies distincts dans des quartiers précaires près du Cap, ont indiqué hier les services de secours. Claire Morin-Gibourg.
Un homme et une femme ont été grièvement brûlés et ont été déclarés morts par les médecins dans un de ces quartiers informels, a déclaré dans un communiqué le porte-parole des services d'incendie de secours du Cap, Germaine Carelcé. 2 incendies ont eu lieu samedi soir et un autre hier matin, le plus important dans la localité de Mfuleni, à 30 km au sud-est du Cap, a détruit 150 habitations précaires et a laissé plus d'un millier de personnes sans abri. Des enquêtes sont en cours. Ce genre de drame est fréquent en Afrique du Sud où les bidonvilles se développent en périphérie des grandes agglomérations. Selon le ministère du Logement, plus de 12% des Sud-Africains vivent dans des habitations de fortune. 30 ans après la fin de l'apartheid, la propriété foncière et la politique du logement restent des questions controversées et constituent un sujet de campagne important avant les élections générales du 29 mai.
La police suisse a fait usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogène pour empêcher un affrontement entre un groupe d'Érythréens pro- et anti-gouvernementaux dimanche, faisant deux blessés légers, selon un communiqué de la police du canton de Soleur dans le nord-ouest. Le président algérien a qualifié de geste positif la condamnation à l'Assemblée nationale française du massacre de plusieurs dizaines d'Algériens lors d'une manifestation en octobre 1961 à Paris. C'est une étape positive, a déclaré M. Tebboune. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi prêtera serment cette semaine pour entamer son troisième mandat consécutif sur fond de graves crises économiques couplées à une situation des droits humains catastrophique, estiment les experts. Au pouvoir depuis une décennie, M. Sissi, 69 ans, débutera ce nouveau mandat mercredi, plus de trois mois après sa réélection sans surprise, avec 89,6% des voix face à trois candidats peu connus du grand public. Son nouveau mandat de 6 ans est censé être le dernier conformément à la constitution égyptienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les gardes-côtes américains ont annoncé hier le début des opérations de déblaiement du gigantesque pont qui s'est effondré à Baltimore au passage d'un porte-conteneur. Une première partie de l'infrastructure a été découpée et déplacée. Nathalie Barge.
Ce morceau du pont qui pesait 200 tonnes a été transféré par bateau. L'opération marque le début des longs et complexes travaux visant à rétablir la circulation maritime dans le port de Baltimore, l'un des plus actifs du pays. Mardi dernier, un porte-conteneur a heurté ce gigantesque pont sur la côte est américaine, provoquant son effondrement et tuant 6 personnes. Le bateau, qui fait presque la taille de la tour Eiffel, selon le gouverneur du Maryland, Wes Moore, est toujours coincé avec une partie du pont effondrée sur lui. Une vidéo publiée par les autorités samedi a montré des ouvriers découpant des poutres métalliques sur une portion supérieure du pont restée hors de l'eau. Un premier morceau a ensuite été soulevé, plusieurs grues ayant été mobilisées sur place. Des progrès commencent à être réalisés malgré le fait qu'il s'agisse d'une situation extrêmement compliquée, a déclaré dimanche sur CNN le gouverneur de l'État du Maryland. Wes Moore avait expliqué la veille que le déblaiement de cette section nord du pont devait permettre d'ouvrir un chenal temporaire pour que davantage de bateaux puissent participer aux opérations. Ce n'est pas seulement important pour les travailleurs de Baltimore, mais pour la chaîne d'approvisionnement nationale, a déclaré sur CBS le ministre des Transports, Pete Buttigieg.
Poursuite des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, alors que les négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas devaient reprendre au Caire. Selon l'OMS, une frappe israélienne sur un hôpital de Gaza a fait 4 morts et 17 blessés. Samedi, des bateaux ont quitté Chypre en direction de Gaza pour y acheminer 400 tonnes d'aide humanitaire. John Lydon.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir vendredi qu'il avait donné son feu vert à de nouveaux pourparlers à Doha et au Caire dans les prochains jours. Mais dimanche, le Hamas a fait savoir ne pas avoir pris des décisions sur l'envoi d'une délégation à ces pourparlers. Les positions sont encore trop éloignées pour une avancée dans les négociations, a déclaré un responsable du groupe islamiste palestinien. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé le Hamas d'avoir durci sa position alors qu'Israël a fait preuve de souplesse dans ses positions lors des négociations. Le Hamas les a durcis, a déclaré Netanyahou lors d'une conférence de presse. Dans le même temps, un nouveau gouvernement palestinien a été investi à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, poussé à se réformer dans la perspective de l'après-guerre à Gaza. Après avoir été nommé premier ministre à la mi-mars, l'économiste Mohamed Mustafa a présenté jeudi un gouvernement de 23 ministres. Le chef du gouvernement, également ministre des Affaires étrangères, a insisté sur la reconstruction des territoires palestiniens. Le Hamas, rival du Fatah de Mahmoud Abbas, s'est emparé du pouvoir dans la bande de Gaza en 2007.
Les ministres des Affaires étrangères français, égyptiens et jordaniens ont appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et à la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir devant le Parlement israélien à Jérusalem pour demander la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Deuxième manifestation en deux jours. La police a fait usage de canons à eau pour dégager une route bloquée par des manifestants. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nathalie Barge.
En République du Congo, Airtel Money et MTN Mobile Money ont signé le statut et le règlement intérieur d'une nouvelle association professionnelle des établissements de paiement. En plus de représenter leurs intérêts collectifs, l'APEP devra s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de paiement, informer et créer des programmes d'intérêt commun en vue de se conformer aux directives du ministère de l'Économie et des Finances, qui a exigé le groupement d'associations professionnelles pour faciliter la régulation. Le fondateur de la plateforme de commerce électronique Exportunity, le Béninois Vital Sunuvu, est l'un des jeunes entrepreneurs sélectionnés par la fondation nigériane Tony Elumelu de financement des start-up. Son entreprise a employé 32 personnes. Parmi les nombreux autres jeunes entrepreneurs sélectionnés, il y a aussi la Marocaine Nora Shainan, fondatrice de Shine Space, qui a permis de développer les compétences professionnelles de plus de 2500 jeunes en dehors du circuit scolaire. Au Kenya, selon le ministère du Tourisme, les revenus liés au tourisme ont fait un bond de plus de 30% en 2023 par rapport à 2022 et dépassent les niveaux pré-pandémie. Quelques 2 millions de visiteurs ont généré des revenus touristiques de près de 2,7 milliards de dollars. Les touristes américains ont été les plus nombreux devant les visiteurs en provenance d'Ouganda, de Tanzanie et du Royaume-Uni.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Élisée Sonia. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Eric et bonjour à tous.
En football d'abord, on jouait ce week-end les quarts de finale aller des interclubs de la CAF et le stade malien tombe à domicile.
Oui, le club de Bamako s'incline 2-1 devant les Ghanéens de Droum FC. Un score qui ne change rien aux yeux de son entraîneur Mamoutou Kané qui pense réagir au match retour.
Quand vous perdez le match, il n'y a pas d'excuse. J'assume la responsabilité. De toutes les façons, ce que les enfants ont donné aujourd'hui, ils ne pouvaient donner que ça. Moi, je suis très fier de ces enfants-là. Et finalement, même bien, hein, ils ont réussi. Les muscles ne répondaient pas. Je ne vais pas critiquer qui que ce soit. Et j'assume la responsabilité. Tout ce qui arrive à l'équipe-là, je l'assume. Que ça marche, que ça ne marche pas, c'est à moi de tirer les conclusions. On va préparer le match retour, comme c'est aller-retour. Tout est possible. Je crois à mes forces, moi, et je crois à mon équipe. Je suis sûr et certain qu'on va faire un très bon match.
À l'instant, Mamoutou Kané dit Mourlé, entraîneur du stade malien au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, Droum FC, réalise ainsi une bonne opération avant le match retour à Koumassi dimanche prochain.
Belle performance également pour le Zamalek du Caire, vainqueur aussi en déplacement.
Les Chevaliers Blancs s'offrent le derby Kairot en allant battre Futur FC sur la marque de 2-1. Pour le reste, les Nigériens de Rivers United ont assuré l'essentiel 1-0 devant les Algériens de l'USM Alger tenant du titre. Enfin, pas de vainqueur entre les Libyens d'Abou Salem et les Marocains de la Renaissance de Berkane. Score 0 but partout.
Et en Ligue des Champions, Élysée, une seule équipe a obtenu une victoire sur les 4 matchs joués.
Tout à fait. Celle du tenant du titre, Al Ahly du Caire, 1-0 en déplacement sur le terrain des Tanzaniens de Simba. Les 3 autres rencontres se sont soldées sur des scores nuls et vierges. 0-0 à Lubumbashi. Une première dans le tournoi à domicile cette saison pour le TP Mazembe qui recevait le Petro de Luanda. Même score entre l'autre club tanzanien Young Africans et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Pareil à Tunis, où l'Espérance s'est heurtée à une solide défense de l'ASEC d'Abidjan érigée par l'entraîneur français Julien Chevalier. Satisfait du comportement de ses joueurs.
Je tiens déjà à féliciter l'état d'esprit de mes joueurs qui ont su s'adapter, qui ont su faire le tour un petit peu dans une période difficile, un match compliqué face à un très très bon adversaire, on le savait. On espérait pouvoir mieux faire au départ de la rencontre et puis on s'est aperçu que c'était difficile ce soir, donc on s'est mieux réinstallé en deuxième période pour bien défendre. Donc il faut les féliciter de l'avoir bien fait.
Le suspense reste donc entier avant les matchs retour prévus en cette fin de semaine.
C'était la page sport signée Élisée Sonia.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, les 10 candidats disqualifiés de la course à la présidentielle expriment leur indignation face aux irrégularités procédurales qui ont abouti au rejet de leur candidature à la présidentielle. Ils menacent de boycotter le scrutin si leurs demandes ne sont pas prises en considération. André Kodmajengar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, une plateforme de l'opposition, estime que la décision invalidant la moitié des candidatures, y compris celle de son candidat Nassour Ibrahim Koursami, est non seulement basée sur des lois inopérantes, mais viole les dispositions du code électoral. Max Kamkoy est l'un des porte-parole du GCAP.
Entendu qu'en la matière, le Conseil constitutionnel n'a pas respecté cette disposition, puisqu'en date du 25 mars passé, le candidat Nassour Ibrahim Negui Koursami n'a pas reçu une notification du rejet de sa candidature comme tel. Nassour Ibrahim Negui Koursami demeure toujours candidat de plein droit et va concourir de gré ou de force aux élections du 6 mai 2024.
Max Kamkoy informe aussi que sa plateforme entend introduire une requête pour exiger l'annulation de la décision portant rejet des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 6 mai prochain.
Il n'y a aucune liste de candidats éligibles qui vaille, c'est-à-dire il n'y a pas d'élection le 6 mai. C'est pourquoi les comités opérationnels de veille et de préparation des GCAP devant empêcher la tenue de ces élections avec comme objectif déclencher une révolution populaire sont parfaitement en alerte et en marche depuis 72 heures.
Pour le constitutionnaliste professeur Ahmad Mohamed Hassan et ancien ministre de la Justice, le GCAP a raison puisque, dit-il, l'élément de signification procédurale n'a pas été respecté.
Quelle que soit la solidité du fond des arguments que vous avancez, si la procédure n'est pas respectée, sa pertinence ne tient pas. Eh bien, le GCAP tient le Conseil constitutionnel sur ce point-là, mais le président du Conseil constitutionnel étant lui-même grand avocat, le sait très bien. La procédure tient lieu le fond. Et ça, c'est des éléments élémentaires qu'on n'a pas besoin de faire tour à la fac des droits pour comprendre. Ça, c'est la précipitation et le zèle dans la recherche de la conformité politique. Et donc, c'est dommage.
Ces candidats ne décolèrent pas. Ils ne reconnaissent pas les autorités en charge de l'organisation de cette consultation électorale et appellent à la communauté internationale à s'investir pour une élection apaisée. Mahamat Asabala Soubiane, l'un des candidats disqualifiés.
Nous, les 10 candidats, récusons le président du Conseil constitutionnel et exigeons que le processus électoral soit pris pour garantir le minimum de crédibilité. La communauté internationale est ici interpellée. Elle, qui est toujours connue pour sa complaisance vis-à-vis des dossiers touchant les affaires politiques au Tchad.
Aucun commentaire du côté du Conseil constitutionnel pour l'instant. Cependant, dans le milieu politique, des regroupements fusent de partout pour soutenir les candidats de leur choix. André Kodumajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le Togo se prépare pour un double scrutin le 20 avril prochain avec les partis politiques se préparant activement. Les femmes sont également très engagées dans une intense préparation pour ces échéances. Comment se positionnent-elles pour cette compétition électorale? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Farida est une coach certifiée, formatrice en art oratoire et aussi voix off. Elle porte une autre casquette, celle de cadre d'un parti politique dirigé par une autre femme, Licencia Meyer Baniba, son mentor et une de ses sources d'inspiration en politique.
Aujourd'hui, en tant que femme, on ne peut pas dire qu'on veut voir notre pays avancer sans s'engager en politique parce que nous sommes, j'ai envie de dire, la moitié de la population. Donc notre politique, notre pays, en gros, ne peut pas évoluer quand toute une partie de sa population ne s'engage pas. Parce qu'en réalité, il y a un adage qui dit des décisions prises, je paraphrase, des décisions prises pour moi, sans moi, c'est contre moi.
Farida est une aspirante aux prochaines élections législatives et régionales, tout comme d'autres femmes comme Mamatou Boukari. Elle se présente aux élections sur une liste indépendante.
Que même à la maison, on fait de la politique avec nos enfants, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis très engagée pour cette jeunesse togolaise-là. Et pour ces élections, qui sont très capitales, régionales, tant législatives, cela va être un défi pour moi que je vais relever.
L'enjeu est de taille pour ces femmes qui ambitionnent de se positionner sur l'échiquier politique togolais. C'est d'ailleurs l'un des objectifs que promeut le gouvernement en réduisant par exemple de moitié la caution des femmes en lice pour ces élections. Encourager donc plus de femmes à s'intéresser à la gestion de la chose publique et surtout à occuper des postes décisionnels. C'est le message que porte Kanley, une militante de l'opposition. Elle a de grandes ambitions pour ces élections à venir.
Nos ambitions, c'est d'aller encore plus loin, de ne pas rester comme le passé. Puisque le passé, les femmes ne se donnent pas en politique, elles ont peur. Maintenant, nous voulons que les femmes laissent cette peur qui sont en elles et de se battre en politique. Et en tant que militante de l'UFC, je vise être députée et être conseillère aussi, si possible, les deux.
En tout, 113 députés et 178 conseillers régionaux seront élus à l'issue de ce double scrutin prévu pour le 20 avril prochain. Plus de 4 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs représentants. Aména Sinyon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Cameroun, les autorités expriment leurs préoccupations concernant l'incivisme observé sur la nouvelle autoroute reliant Yaoundé à Douala. Malgré une campagne de sensibilisation étendue, les riverains continuent d'adopter des comportements à risque le long de la bretelle menant à cette infrastructure routière ainsi que sur l'itinéraire lui-même. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Au lieu dit Mekwameyos, dans le 7e arrondissement de Yaoundé, le marché périodique de chaque samedi crée un bouchon énorme.
On ne doit pas exposer ces gens ici. Et si c'est l'autoroute, fais les efforts d'enlever ces gens-ci.
Le marché de Mekwameyos a considérablement réduit la chaussée sur l'unique bretelle qui conduit vers l'autoroute Yaoundé-Douala. Chaque samedi, Jean Tabi et Somba, natif de Mekwameyos, tentent de mettre de l'ordre à cet endroit à titre bénévole afin de rendre la circulation fluide pour les véhicules qui empruntent l'autoroute.
Regarde, ça là, elle veut venir vendre. Ça veut dire ici, il n'y a pas la programmation. La mairie a pris beaucoup d'espace. On met des contrôles là-bas et à côté de la mairie, il y a l'espoir. Hein? Il y a les motos qui courent les enfants ici. Hein? Et beaucoup sont morts.
Les commerçants sont eux-mêmes résignés. Clément Zou, vendeur de poulet.
De temps en temps, la mairie nous dit que bon, on ne doit pas vendre en bordure de route. Nous, en tant que villageois qui apportons nos vivres, où allons-nous donc installer nos vivres tandis que le marché existe depuis. Bon, le maire nous a dit une fois qu'il devait nous déporter ou du côté de l'Irak, on n'est pas encore fixé.
Marie Somba est une commerçante. Elle vend des vivres frais depuis une vingtaine d'années. À cet endroit.
Ah, on va le faire comment si c'est un danger? Nous sommes déjà habitués. Si tu ne viens pas vendre ici, tu vas faire comment? Ou bien tu pars à Mokolo. Et Mokolo, c'est loin. Il y a déjà les gens ici qui veulent déjà qu'on vende ici.
Ailleurs, les riverains se plaignent du fait que l'infrastructure routière a restreint leur mouvement et espace de vie. Jean-Pascal Kennem, maire de Boudmakak, une commune de la région du centre.
Nous avons beaucoup de difficultés pour pouvoir partir d'un bout de village à l'autre, pour pouvoir aller même dans nos plantations, parce que les traversées pour piétons n'ont pas été prévues dans cette autoroute-là. Les passerelles sont très distantes, ce qui fait que nos populations, pour aller dans son champ, comme c'était auparavant, il faut qu'on compte peut-être à 7-8 km, ce qui est très pénible.
Conséquence, certains riverains ont pris le risque de créer leur propre voie de contournement pour rallier l'autoroute.
Emmanuel Ngannou Djoumessi, ministre des Travaux publics.
L'autoroute ne pouvant pas être empruntée n'importe comment, alors il faudrait que les populations riveraines retrouvent une possibilité de circulation, une possibilité de mobilité. Nous avons commencé déjà à déléguer des ressources à certains maires pour aménager ces voies alternatives. Ces ressources ne sont pas entièrement déléguées, mais le processus va se poursuivre.
Nous sommes très contents.
Le principal syndicat de fret pour camions a lui aussi prévu de sensibiliser les camionneurs qui vont emprunter cette autoroute. Yaoundé, Emmanuel Joltap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Bénin, les hommes prédominent dans le domaine de la science et de la technologie. Et cependant, de plus en plus de femmes cherchent à réduire cette disparité en s'impliquant davantage dans le secteur. Leur objectif est de voir autant de femmes que d'hommes dans le domaine d'éthique d'ici 20 ans. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Le Bénin compte peu de femmes passionnées de science et de technologie. Les rares qui s'affirment dans le secteur ne cessent de sensibiliser leurs pairs à s'y lancer. C'est le cas de Shakirat Akambitalon, analyste en télécommunication. Pour elle, il faut un peu plus de curiosité.
C'est pas tabou, les TIC. Il suffit d'avoir la volonté de se décider, de chercher à comprendre ce qui se passe dans ce secteur-là aussi, d'être forte, ne pas avoir peur des obstacles.
Pour Nadine Kikimigan, spécialiste des télécommunications, les filles et les femmes ne doivent pas éviter les filières scientifiques sous le prétexte qu'il s'agit d'un secteur réservé aux hommes. Pour elles, seule l'intelligence et la capacité d'analyse et de réflexion sont primordiales.
C'est vrai qu'on pressent les télécoms comme un métier d'homme. La preuve, quand j'étais à l'école, j'étais la seule fille parmi 10. Quand j'étais en stage, j'étais la seule fille parmi près d'une cinquantaine d'hommes. Aujourd'hui, je suis la seule femme parmi les hommes.
De nombreuses femmes se sont lancées dans le secteur pour diverses raisons. Si pour certaines, c'est par passion, pour d'autres, il s'agissait de démentir l'idée selon laquelle seuls les hommes pouvaient exceller dans le secteur. Zeroz Kokou est spécialiste des télécommunications.
C'est un choix qui a été fait par défi. Un défi personnel et un défi par rapport à la gente féminine pour restaurer l'image ou pour améliorer ou pour changer l'image qu'on a de la gente féminine en disant voilà, tel métier c'est pour les hommes, tel autre c'est pour les femmes.
Mais le sacrifice à faire pour y arriver est énorme selon celles qui ont dû abandonner pour des filières plus souples. Pour Ariel Aronsou, promotrice de Kea Médical, tout est une question de challenge.
Quand on s'attaque à un challenge, il ne faut pas espérer que le chemin soit tout tracé. On a des hauts et des bas. Et le plus important, c'est de pouvoir se focaliser sur le pourquoi on fait tout cela. Et cela ramène en fait au sens de la mission, pouvoir avoir une idée claire de où est-ce que vous allez et pourquoi est-ce que vous le faites. Ce qui fait que quand ça semble tout désert, quand ça semble désespéré, en se focalisant sur la finalité, on arrive toujours à retrouver le chemin initial et l'orientation à garder.
Malgré les difficultés, les jeunes filles sont nombreuses à faire le choix d'évoluer dans le secteur scientifique. Elles le pensent rempli de bien plus d'opportunités pour le choix de carrière.
J'ai choisi de faire la science parce que je me suis dit que la série scientifique offre plus de possibilités de bon emploi après le bac.
J'ai choisi de faire la science parce que je me dis qu'en série scientifique, j'aurai plus d'opportunités de réaliser mon rêve de faire la médecine.
Pour stimuler le goût de la science et de la technique chez les filles et femmes, plusieurs initiatives ont vu le jour au Bénin, notamment Global Women's Breakfast, Tech for Girls, Women in Tech. L'État aussi se bat à travers le financement des initiatives de femmes dans le secteur. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Africa.
Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manelakiza à ce micro. Lionel Rodanella Galima a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à l'équipe de la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte. Le Monde Aujourd'hui sur V.